celle des enfants.
C'est exact. Mais en général, avec ton lit derrière.
Ben, c'est ça. On faisait dans le seul endroit où on ne se faisait pas éclater par les enfants. Shalom à tous et à toutes. Bon, alors, je ne m'intéresse pas à vous, les gens d'Internet. Je m'intéresse au public qui est là, parce que ça y est, enfin. Ça y est, enfin, on peut réétudier la Torah en chair et en os. Alors, on sait qu'il y a des gens qui ne peuvent pas, qui ne sont pas du tout présents, mais la Torah, ça s'étudie en face à face et c'est toujours mieux en live. Non, parce qu'ils sont aussi en live, mais en chair et en os. Tov, Azrabotai, je me suis dit que quand même, vu que demain soir, c'était Yom Yerushalayim, eh bien, c'était important d'un petit peu en parler.
C'était pas mardi. Demain
soir.
Non, c'était pas mardi. Tu pouvais fêter aussi mardi, la brioche, tu vois, mais. Mais pour le peuple juif, c'est demain soir.
On pensait que le corona allait changer.
Non. C'est toute année.
Adiala. Nachon, nachon. Adiom Yerushalayim Rabotai. Donc, j'ai déjà donné des cours sur Yerushalayim cette semaine. J'en ai donné un hier, un mardi. Ouais, je crois. Non, mardi, c'est hier. Non, j'ai donné un cours mardi, mais c'est pour. Donc, je vais redire certaines choses. Je ne sais pas si vous avez entendu le cours que j'ai donné mardi. Non. Donc, ça, c'est fait. Et puis, ceux qui ont entendu, le micro ne marchait pas bien. Donc, comme ça, c'est fait. Non, mais il n'y a pas de problème. Donc, on va pouvoir y aller. Alors, Yerushalayim. Yom Yerushalayim. Alors, je ne vais pas faire de récapitulatif historique. Qu'est-ce qu'on fait ? On sait très bien qu'on fête la libération de Jérusalem en 1967. Je vais essayer de voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire qu'on fête Yom Yerushalayim. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire pour nous d'être rentrés à Jérusalem ? Alors, je parle à un public de convaincus parce que non seulement vous avez fait l'Aliyah, mais en plus, vous avez décidé d'habiter à Jérusalem. Et donc, vous êtes amoureux de Jérusalem. J'ai pas besoin de vous convaincre. Non, mais bien sûr, ça, c'est une évidence. Donc, il va juste falloir qu'on mette des mots sur ce sentiment qu'on a très profondément. D'abord, il faut savoir que c'est Jérusalem qui a sauvé le peuple juif pendant 2000 ans. Bien sûr. C'est-à-dire, comprenez-moi bien, pendant 2000 ans, un juif, c'est un rabbin ou ce qui tourne autour. C'est-à-dire que pendant l'exil, un juif, c'est un religieux. Parce que celui qui n'est pas religieux pendant l'exil, bah, il s'assimile et puis on n'en parle plus et il sort du peuple juif. Donc, si tu veux, un juif, c'est un rabbin ou ce qui gravite autour. C'est pour ça, d'ailleurs, que je fais souvent ce genre de test. Je demande aux gens, est-ce que vous êtes capable de me donner entre les années 200 de l'ère chrétienne et 1800 de l'ère chrétienne, donc ça fait 1600 ans d'histoire, est-ce que vous pouvez me donner trois noms de juifs qui ont été connus dans l'histoire et qui n'étaient pas rabbins ?
Même pas Spinoza.
Alors, Spinoza, ça marche, mais je pourrais te dire comme Joker qu'avant d'être excommunié, il était rabbin. Ouais. Mais, c'est quoi, Spinoza ? Je te l'offre.
On l'accepte. Maïmonide, Ibn Gabirol, c'est pas des rabbins ?
Ah ben, bah, je sais pas, pour moi, Maïmonide, je l'appelle le Rambam, Rabbi Moshe Ben Maïmonide.
Oui, mais
avant, ah non, il était d'abord rabbin avant de devenir médecin. D'accord. Il est devenu médecin, effectivement, mais il était d'abord rabbin. Rabbi Shlomo Ben Gabirol.
Non, mais tout le monde disait
Rabbi. Non. T'as raison qu'on s'appelle comme ça. À la choule, Sylvain, il appelle tout le monde Rabbi quand il les fait monter à la Torah. Mais Rabbi Shlomo Ben Gabirol, c'est un des grands, grands maîtres du judaïsme. Ça, il a laissé des écrits incroyables. Non, c'est pas Stam qu'on l'appelait Rabbi. Donc, alors Qui
Montaigne.
T'es sûr de ton coup, là ?
Ah, certaine. Ah, j'avais
pas voulu faire mon coup. Eh ben, tu sais quoi ? Alors, vas-y, Montaigne. Moshe, quel Moshe ? Quel Moshe ? Mais il est né avant 200. C'est-à-dire pendant les années d'exil. Bon, alors, je ne savais pas pour Montaigne. Va pour Montaigne, alors, je ne savais pas.
On va vérifier.
Ouais, il va falloir qu'on vérifie ça. Mais en tout cas, bah vous voyez qu'on peine. Si j'avais demandé des rabbins, ah, il y en a, en veux-tu, en voilà.
Rothschild, non ?
Mais Rothschild, c'est après 1800.
C'est après, oui.
Le papa, donc.
Mais même le papa.
Le premier.
Bah, il y en avait peut-être des Rothschild d'avant, mais on ne les connaît pas, tu vois.
Ah, c'est ça.
Ah oui, bah, bah, c'est pas juste. Monsieur Cohen. Il y avait aussi un Monsieur Cohen, quelque part, mais bon, c'est pas.
On ne sait pas qui c'est.
Ah, parce que tu as lu le livre de Chaim.
J'en ai un.
D'accord, mais tu l'aurais jamais connu si tu n'avais pas lu le livre de Chaïm. Si,
bien sûr.
Si quand même. C'est vrai, tu as raison. Bah alors, banco. Banco, ça marche.
Israélite, c'était quand?
Je crois que c'est après. Je crois. Bon, mais en tout cas, vous voyez qu'on peine. Bah, je peux en citer quelques-uns. Hein. Par exemple, Donna Grazia Nassi, Don Yosef Nassi, David Areouveni au XIIIe siècle. Bon, il y en a quelques-uns. Mais ce n'est pas voilà, des rabbins, par contre, faciles. Parce que pendant l'exil, un juif, c'est la pratique des mitzvot. Alors, c'est vrai que la pratique des mitzvot a gardé, chacun d'entre nous, son identité juive. Mais ça n'a absolument pas gardé la cohésion nationale. Pourquoi ? Eh bien, justement, parce que la pratique des mitzvot nous a séparés. On ne fait pas pareil Shabbat au Maroc qu'on le fait en Pologne ou qu'on le fait au Yémen. Alors, vous allez me dire, bah non, mais attends, de manière générale, c'est pareil. Mais non, c'est justement sur les points de détail qu'on se sépare. Les Havdil, ok, je ne fais pas de comparaison, mais vous prenez les élèves de Jésus à la base, c'est des points de détail qui nous séparent au niveau de l'époque. Et ces points de détail, bah, ils ont créé le christianisme et nous, on est restés juifs. Donc, les points de détail, je ne dis pas que ça a créé le christianisme, non, mais je veux dire que ces points de détail auraient pu faire, s'il n'y avait pas eu un ciment, une cohésion nationale, eh bien, finalement, on aurait eu, je ne sais pas, 5, 6, 7 versions du peuple juif. Les Marocains, les Tunisiens, les Algériens, les Polonais, les Yakim, les trucs. Qu'est-ce qui a fait que malgré toutes les différences, il y en a, je veux dire, on est tous conscients des différences. Nous, on ne le vit pas tellement. Jésus avant le Christ. Ah ouais ?
Avant
le Christ. Il y a fait ? Donc, si tu veux, un chrétien, à l'époque, on va dire 10, 15 ans, 20 ans après la mort de Jésus. Ben, il vit comme un juif, il va au Beth Amikdash, tu peux pas le différencier. Bon, vous savez, quand tu creuses un peu et que tu regardes ses croyances et machin, alors tu vois que c'est différent, mais sur le mainstream, tu vas pas le différencier. C'est beaucoup plus tard. Le véritable fondateur du christianisme tel qu'on le connaît, c'est Polo.
C'est pas Paul.
Eh ben oui. Shaoul, pour les intimes. Shaoul, pour les intimes.
Il y a quand même eu un concile en l'an 300.
Oui, mais c'est beaucoup plus tard.
Hein? Et qui a définitivement fixé les règles pour les chrétiens.
Tout à fait, c'est ce qu'on appelle le concile de Nicée. Le concile de Nicée en 324, tu as totalement raison, mais c'est près de 300 ans après.
Voilà.
Donc bien sûr, déjà Paul, il met en place les bases du christianisme. C'est quoi les bases du christianisme de Paul ? C'est on annule les mitzvot. Comme ça c'est réglé. Et après, tu as raison que les dogmes du christianisme vont être mis en place, bien sûr. Donc bien sûr que finalement ça va être complètement différent. Mais je veux dire que les points de détail sont ce qui va lancer les différences. Et nous, on le sait très bien. Alors nous, on a vécu en France, donc on n'a pas tellement on n'a pas vraiment ressenti la différence culturelle parce que même le Marocain qui est venu s'installer en France et le Polonais qui est venu s'installer en France, bah, très vite, on a pris les coutumes françaises et ça a calmé les différences. Mais tu prends un bon Marocain du Maroc et un bon Polichet de Pologne, c'est pas le même judaïsme. Et je te parle pas du Yéménite, voilà. Donc, qu'est-ce qui a maintenu la cohésion nationale ? Ben, vous l'avez dit, c'est les Shana Abba Birushalayim. C'est le fait qu'il y avait cet espoir d'un jour revenir à Jérusalem. Ce rêve, pendant 1700 ans, 1800 ans, qui s'est appelé Jérusalem. Et je dis bien Jérusalem, pas Israël. Jérusalem. Et, alors, je dis bien Jérusalem et pas Israël. De la même façon, je dis bien Jérusalem et pas le Beth Amikdash. C'est-à-dire que ce qui a maintenu, c'est l'espoir de revenir à Jérusalem. Oui, dans les Tfilot, tu peux trouver qu'on veut un espoir de revenir dans tout Israël ou qu'on veut reconstruire le Beth Amikdash. Mais il n'empêche que c'est Jérusalem qui a cristallisé cet espoir du peuple juif. Et Rabban Yochanan ben Zakkai, lorsqu'il voit la destruction de Jérusalem et du Beth Amikdash, il met en place des takanot. Il y a 2000 ans, des takanot pour garder cet espoir-là. Eh ben, c'est des décrets qui vont être mis en place justement pour garder cette dimension cette dimension nationale, cet attachement à Jérusalem. Puisque par exemple, alors, Machloket, est-ce que c'est Rabban Yochanan ben Zakkai qui a inventé ça ou est-ce que c'est le roi Lion ? C'est Machloket qui a inventé. Mais vous savez que dans le film Le Roi Lion, lorsque Rafiki, le babouin, va présenter le futur roi Simba à tout le monde, en fait, il lui fait la Brit Mila. C'est de ça qu'on parle. Mais qu'est-ce qu'il lui met sur le front? Il lui met un petit truc comme ça sur le front. Est-ce que c'est eux qui ont piqué de nous ou nous qui avons piqué du film? Je ne sais pas. Mais moi, je me rappelle que quand je suis monté sous la roupa, le Rav Berger, il m'a mis de la cendre sur le front. Parce que ça fait partie des takanotes de Rabban Ramban Zakkai en souvenir de Jérusalem. De la même façon, j'ai brisé le verre. Et quand j'ai brisé le verre, qu'est-ce que j'ai dit? Je n'ai pas dit un verset qui me rappelle du Beth Amikdash. Non, j'ai dit « Imeshkacher Yerushalayim ». Toutes les takanotes, laisser un petit peu un morceau de mur comme ça, pas terminé, c'est en souvenir de Jérusalem. Donc, vous voyez bien que bah, tout est mis en place pour qu'on se rappelle et qu'on cristallise Jérusalem. En d'autres termes, c'est Jérusalem qui a permis d'avoir non seulement la cohésion, mais en fait l'éternité du message national d'Israël. Et ça va de pair avec ce que dit le Talmud à propos du verset de Divrei Hayamim. Il y a un verset dans Divrei Hayamim qui nous dit « Lecha Hashem Hagedula Vehagevura Vehatiferet Vehanetzar Vehaod » Alors c'est qu'on dit dans la tefila le matin, on dit « C'est à toi Dieu qu'appartiennent la Gdoula, la grandeur, la Gvura, la vaillance, la Tiferet, l'éclat, le Netzar, l'éternité, et le Hod, c'est la splendeur. »
Oui, mais quand tu dis Jérusalem, oui. Est-ce que c'est… Jérusalem, est-ce que c'est la partie vraiment physique, le ciel?
Ah, tu dis, ou est-ce que c'est l'idée
aussi, voilà, que c'est une idée, que c'est une entité beaucoup plus large que la ville elle-même.
Tu vas voir, on va voir ensemble dans le cours que c'est pas que c'est les deux, c'est que c'est un. Les deux, en fait, sont un. C'est-à-dire que l'un ne peut pas marcher sans l'autre et l'autre ne peut pas marcher sans l'un. On va voir. Donc, évidemment qu'il y a ces deux dimensions, on va le voir ensemble. Donc, l'Echa Hashem Agdola va voir, la Gemara va nous dire que Hanetzach, Ze Yerushalayim. Hod Ze Bet Amikdash, mais Hanetzach, c'est Yerushalayim. L'éternité. L'éternité, c'est Jérusalem. Maintenant, comment on comprend ça? Eh bien, pour comprendre ce que c'est que cette dimension de Netzach, d'éternité, je vous renvoie à une autre histoire qui est marquée dans le Talmud, cette fois dans le traité de Baba Metzia. C'est une histoire, peut-être que vous connaissez, qui parle d'un problème extrêmement intéressant.
Je vois.
Ouais, tu vois. C'est-à-dire, si jamais j'ai fait un four chez moi, mais ce four, je l'ai fait avec des disques d'argile que j'ai posés les uns sur les autres, est-ce qu'un four comme ça, il peut recevoir de l'impureté ou pas? L'impureté ou pas? Ça, c'est de la question. Ah, tu comprends bien que c'est la question qui nous anime tous. Bien sûr. Bien évidemment, donc ça a animé également deux rabbins, qui s'appelaient Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, qui ne sont pas d'accord. Maintenant, bon, ce n'est pas très grave, ils ne sont pas d'accord, on a l'habitude. Mais on est à une époque où tout va bien à l'époque, puisque c'est le Sanhédrin. Donc quand on n'est pas d'accord, ben, qu'est-ce qu'on fait? On vote. Non, le Sanhédrin. C'est dans le Sanhédrin qu'ils ne sont pas d'accord. Les deux, ils font partie du Sanhédrin. Donc au final, c'est comme ça pour tous les cas de halakha, tout le monde n'est pas forcément d'accord, et à la fin, on vote. Et la majorité, ben c'est eux qui décident la halakha. Donc là, pareil, ils votent. La majorité suit l'avis de Rabbi Yehoshua. Rabbi Eliezer n'est pas d'accord, n'accepte pas le vote de la majorité. C'est un petit peu comme en Israël, on n'accepte pas les votes de la majorité. C'est comme ça que ça marche. Et donc, à ce moment-là, il donne des jokers. Il dit, j'ai raison et je vais vous le prouver par des arguments qui ne sont pas des arguments intellectuels, mais par des arguments supérieurs. Et il dit, par exemple, si j'ai raison, que le caroubier le prouve. Et là, donc, il y a le caroubier qui était dehors, qui se déracine et qui va se renraciner tout seul comme un grand, 100 mètres plus long. Bon, il est évident que ces histoires ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Le Maharal de Prague nous explique dans Be'er HaGola que ces histoires mentionnées dans le Talmud ne sont pas à prendre au sens propre, mais vient nous enseigner quelque chose. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Le caroubier, c'est le symbole de la transmission. On se rappelle de l'histoire racontée par Roni Améagel, qui voit un jour un vieillard planter un caroubier. Et il dit, mais enfin, pourquoi tu fais ça? Tu sais très bien que ça met 70 ans à pousser le premier fruit, ce qui n'est pas vrai non plus. Mais ça veut dire que ça met longtemps. Et toi, tu ne le verras pas. Il dit, ben oui, mais moi, quand j'étais enfant, j'ai trouvé des caroubes, parce que quelqu'un les avait plantés avant moi. Donc, moi, je les plante pour mes petits-enfants. En d'autres termes, le caroubier, c'est l'arbre qui représente la passation, la transmission de génération en génération. entre parenthèses, c'est la raison pour laquelle c'est l'arbre qui a été choisi pour être l'arbre des justes à Yad Vashem. Ok, à chaque fois qu'un juste il plante un arbre, c'est un caroubier à cause de ça. D'accord ? Parce qu'il a fait quelque chose qui va permettre d'avoir des générations. D'accord ? Donc, ce caroubier, ce caroubier représente la transmission. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer ? Il dit, mais moi, si j'ai raison, c'est pas à cause de moi, c'est parce que je tiens une massorette. J'ai une transmission derrière moi, je n'invente pas ce que je dis. Mais ça ne convainc pas les gens. Il dit, oui, mais nous aussi, on a une autre tradition. Il dit, ok, alors si j'ai raison, que le cours d'eau le prouve. On sait que le cours d'eau, ça va de haut en bas. Et là, ça va de bas en haut. Mais ça, que ça représente quoi ? La En Maim et la Torah. C'est-à-dire que je n'ai pas seulement une tradition. Ma tradition, c'est une tradition qui est ancrée dans la Torah. Par exemple, moi, je pourrais vous dire, oui, mais c'est moutard de regarder la télé Shabbat. La preuve, mes grands-parents, ils regardaient la télé Shabbat. Certes, mais quand mes grands-parents regardaient la télé Shabbat, ils n'ont jamais dit que c'était ce que la halakha, elle demandait de faire. C'est-à-dire, c'est juste qu'ils n'avaient pas envie de faire Shabbat. Donc, si tu veux, la tradition, c'est bien gentil, mais il faut qu'elle soit ancrée dans la Torah. Donc, d'après ça, donc moi, j'ai une tradition et j'ai aussi la Torah. Les mecs en face, ils disent, nous aussi. Donc, non, ce n'est pas une preuve. Après, il dit, oui, mais si j'ai raison, que les murs du Beit HaMidrash le prouvent. Et là, le Mara dit que les murs ont commencé à s'effondrer. Jusqu'à ce que Rabbi Yehoshua se lève et dise, mais enfin, mur, pourquoi vous intervenez ? Nous sommes en train de discuter la halakha. Et donc, la Gemara, elle dit que les murs se sont arrêtés de tomber, mais ils ne se sont pas remis droit. Ils ne sont pas tombés pour ne pas manquer de respect à Rabbi Yehoshua, mais ils ne se sont pas remis droit pour ne pas manquer de respect à Rabbi Eliezer. Et donc, ils restent penchés. Semble-t-il que la discussion a eu lieu à Pise. C'est ce qui explique tout ce qui s'est passé. Bon, en tout cas, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai une transmission. Cette transmission, elle vient de la Torah, mais je ne me contente pas de dire « Non, mais on fait comme ça parce que ma grand-mère le faisait. » Je vais au Beit HaMidrash pour comprendre pourquoi ma grand-mère le faisait. Seulement les autres, ils disent « Oui, mais nous aussi, on est au Beit HaMidrash. » Et donc, il dit « Bon, Joker, si j'ai raison, que le ciel le prouve. » Et là, il y a une voix qui sort du ciel et qui dit « Pourquoi vous embêtez Rabbi Eliezer ? C'est lui qui a raison. » Seulement, Rabbi Yehoshua, il dit « Ben non, la voix, elle est gentille, mais ce n'est pas de la télé-réalité, ce n'est pas la voix qui détermine la réalité. Lo bashamayim hi, Dieu n'a plus laissé la Torah dans les cieux, il nous l'a donnée. » Et donc, c'est maintenant à nous de comprendre la Torah. Non, ça ne veut pas dire qu'il pense que Rabbi Eliezer, il ne comprend rien. C'est juste qu'il n'arrive pas à se faire comprendre et à se faire accepter au niveau de ses arguments. Donc, même s'il a raison, si tu n'arrives pas à l'expliquer, ben ce n'est pas toi la halakha. On retrouvera ça dans deux générations plus tard avec Rabbi Meir Baal HaNes nous dit Rabbi Yosef Karo qu'à son époque, il n'y avait pas plus grand que lui. Il était même plus grand que Rabbi Shimon Bar Yochai. Et pourtant, la halakha, elle n'est jamais comme Rabbi Meir. Pourquoi ? Il dit parce que lo yardou chaverav le sof da'ato. C'est-à-dire que les gens n'arrivaient pas à comprendre ce qu'il disait. Il était tellement grand, qu'il parlait avec des profondeurs tellement grandes, qu'on n'arrivait pas à comprendre. On n'arrive pas à comprendre ce que tu veux, c'est pas toi qui détermine la halakha. C'est dans un autre monde. Donc, finalement, la halakha, elle est comme Rabbi Yehoshua. Deux jours après cette histoire-là, la Gemara continue et nous raconte que Rabbi Nathan, qui était un des rabbins là-bas, il a rencontré Eliyahu Hanavi, comme ça, normal, vite fait. Et il lui dit, dis-moi, tu te rappelles, il y a deux jours, il y a eu tout de la marloquette, machin. Toi qui es un petit peu en contact avec là-haut, qu'est-ce qu'il a fait Dieu pendant que nous, on était en train de nous disputer en bas ? Eh bien, Eliyahu répond, Dieu a souri et il a dit, Nitzruni banai, Nitzruni banai. Ce qui veut dire, il y a une traduction qui est classique qui dit « mes enfants m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu » du style « c'est eux maintenant qui font vivre la Torah ». Mais je n'aime pas cette traduction. Parce que pour moi, « nitzru ni banai » ça veut dire « asu oti netzach ».« Netzachu ni banai ». Ils ont fait de moi une éternité. Le fait que de génération en génération, dans chaque génération, eh bien, on va vivre la halakha, par ces disputes, fait de nous, du message de Dieu, une éternité. Ce qu'on fait là maintenant, Zenitzruni Banan, c'est on fait que Akadosh Baruch Hu, c'est une réelle éternité. Son message qui a été donné il y a 3500 ans à Moshe, continue à vivre parmi nous. En d'autres termes, c'est quoi la notion de Netzach ? Eh bien, c'est quand la chose est vivante au quotidien. À Netzach, c'est Yerushalayim. Et on a expliqué comment il n'y a pas de plus grande évidence que à Netzach, c'est Yerushalayim. Yerushalayim, on l'a vécu dans chaque génération. Alors, le problème, c'est que certes, on a vécu le Netzach dans chaque génération, en pensant Jérusalem, en priant Jérusalem, mais c'est devenu un Jérusalem théorique. Puisqu'on était tellement éloigné de la Jérusalem concrète, bah c'est devenu un rêve. Si bien qu'il y a des gens qui ont écrit des chansons. Yerushalayim shel zahav, shel nechoshet v'shel or. C'est-à-dire, il y a des écrivains, juifs et non-juifs, qui ont rêvé Jérusalem. C'est bizarre, mais quand tous ces gens-là qui ont écrit Jérusalem viennent se balader à Jérusalem, bah, c'est pas du tout, ça correspond pas. C'est-à-dire que quand tu regardes les écrits de l'Antiquité ou les écrits de la Renaissance, des chrétiens qui parlent de Jérusalem ou des juifs qui parlent de Jérusalem, et que tu lis après les comptes rendus de vacances de Rabbi Ovadia de Barthénoura qui est venu ici, ou de Rabbi Binyamin de Tudel qui est venu ici, ou de Chateaubriand qui est venu ici, ou de Mark Twain qui est venu ici. Ah, mais c'est pas du tout les mêmes. Hein. Parce que dans les récits de ceux qui n'ont pas mis les pieds ici, Jérusalem, c'est une ville d'or, de cristal, c'est une ville extraordinaire. Pour tous les mecs qui sont venus ici, ils te disent que c'est une poubelle. Mamache. Donc, il y avait une dissonance terrible entre l'idée de Jérusalem et la Jérusalem pour de vrai. Et pourtant, eh bien, en fait, il n'y aura absolument aucune différence. Pour que vous compreniez bien cela, je vous fais partager ce que j'ai vécu lundi. Lundi, alors, ceux qui sont intéressés, vous pourrez voir, ça passera vendredi sur Kalita. Lundi, j'ai été tourner une émission pour Yom Yerushalayim à Givat HaTachmoshet. Givat HaTachmoshet, la colline des munitions, là où a eu lieu le combat qui a permis finalement la libération de Jérusalem. Et donc je suis là-bas, et on nous fait rentrer dans des endroits où je n'avais jamais été. J'ai déjà été très souvent à Givat HaTachmoshet, mais à des endroits que je ne connaissais pas. Et parmi eux, bah, tout simplement le nouveau musée souterrain de Givat HaTachmoshet, qui n'a même pas un an. Ouais, ils ont creusé tout un musée souterrain, donc au moins tu n'es pas au chaud, où tu vois, c'est un musée qui n'est pas que sur le combat de Givat HaTachmoshet, mais qui rend hommage à tous les combats pour Jérusalem. Ah ouais, non, c'est extrêmement impressionnant. Je te parle en 48, en 67, particulièrement. Ah, ils vont pas revenir jusqu'à David et tout. Mais c'est extrêmement impressionnant. Et donc, on arrive là-bas, le mec du musée nous guide un petit peu, machin, et puis on arrive à la dernière salle. Et le dernier endroit du musée, c'est un mur. Un mur, ils appellent ça le Kir HaZahav, un mur doré. Et sur ce mur, qui en jette, sur ce mur, il y a des noms. Évidemment. C'est les noms des 182 personnes qui sont tombées pour les Kravot de Jérusalem. Pas que à Givat HaTachmoshet, mais dans toute la Maharacha à Yerushalayim.
Il est 80.
Ah, c'est que ceux qui sont tombés. Hein. C'est que ceux qui sont tombés. Et donc, c'est un mur qui est extrêmement impressionnant. Et donc, moi, je suis perdu dans ce mur. J'essaye de lire des noms, d'en découvrir, machin. Et il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. D'abord, je me rends compte qu'il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des Ashkenazim, des Sfaradim, en fonction des noms. Je ne peux pas le savoir avec le mur, mais j'imagine qu'il y a des religieux, des pas religieux. Et je me dis qu'en fait, ben, il y a de tout. Il y a de tout pour arriver à délivrer Jérusalem. Et tout d'un coup, je me rends compte qu'en fait, Netzach et Yerushalayim, bah tout d'un coup, ça prend une autre dimension. Parce que, en fait, ça veut dire quoi ? Nitzruni Banai, j'ai dit, ils m'ont fait devenir une éternité. Mais en fait, ça fait référence également au mot en hébreu, un menatzer. Mais c'est un menatzer. Alors, vainqueur. Mais c'est pas ce que j'attendais de toi. Je voulais que tu me dises un chef d'orchestre. Un menatzer, c'est un chef d'orchestre. C'est comme ça qu'on dit en hébreu. Menatzer. Lama, parce que le chef d'orchestre, il comprend que s'il veut pouvoir sortir une symphonie, il faut que tous les instruments jouent en harmonie. Il doit comprendre que chacun a son rôle à jouer dans la symphonie à un moment clé. S'il dit « moi je ne veux que des trompettes », il n'y aura pas de symphonie. Mais si d'un autre côté, il dit, allez, tout le monde joue ensemble, allez, c'est parti, ça sera la cacophonie. S'il veut avoir une symphonie, eh bien, il a besoin de faire ce que le Rav Kook appelle, dans les Igrot Reiya, le Rav Kook dit de Jérusalem que c'est « a harmonia shel haolam », l'harmonie du monde. Et c'est ça, Jérusalem. Et je suis devant ce mur, je me dis, mais ces noms-là, c'est ça. C'est la notion où on a besoin de tout le monde. On a besoin de lui, on a besoin de lui, on a besoin de lui. Et j'ai un réflexe à ce moment-là, un réflexe d'humilité, je pense. C'est qu'à un moment donné, je baisse un peu les yeux. Genre, comme pour faire ma révérence à tous ces gens-là. Et tout d'un coup, je me rends compte sur quoi je me tiens. Parce que en arrivant devant le mur, j'étais tellement tout de suite pris par le doré, le grand, c'est un grand mur. Donc, j'ai pas fait attention à ce qu'il y avait sous mes pieds. Et en fait, je regarde et je me tiens sur une vitrine. Tu marches en fait sur une vitrine et sous tes pieds, eh bien, il y a 182 pierres qui viennent de 182 quartiers, zones différentes de Jérusalem. Parce que ceux-là, ce mur, sont devenus la Jérusalem de l'idée. Ils ont porté 2000 ans d'idées de Jérusalem. Eux non plus ne connaissaient pas la Jérusalem avant de la délivrer. Ils l'ont rêvé, mais ils ont rêvé le concret. Ils ont rêvé les pierres qui étaient en dessous. Et ces pierres-là sont des pierres qui viennent du Kotel, qui viennent de Kiryat Moshe, qui viennent de Katamon, qui viennent de tous les quartiers, de toutes les régions de Jérusalem, parce qu'ils voulaient justement montrer que ce dont on a rêvé pendant 2000 ans, eh bien finalement, n'était que la concrétisation de ces pierres. Et c'est vrai que Mark Twain a dit que c'était une poubelle et que Chateaubriand a dit que ça valait pas, ça volait pas très haut. Mais c'est vrai également que quand Am Yisrael est rentré, eh bien, il a refait de Jérusalem une ville d'or, mais pas seulement dans le rêve, dans la réalité. C'est-à-dire que, bon, il y avait le corona, donc personne n'était sur les routes, mais là, ça recommence à vivre, et on recommence tout d'un coup à être pris dans les embouteillages. Ah. Et on recommence tout d'un coup... Ben ouais, et on commence tout d'un coup à revoir les travaux qu'il y a partout. On avait l'impression qu'ils avaient arrêté les travaux. Ben non, ils sont toujours là, partout, partout, partout. Alors évidemment que c'est un peu saoulant, bon, sauf les gens qui viennent en vélo, qui peuvent passer au travers des travaux. Mais c'est saoulant un petit peu. Alors que le Rav Tzvi Yehuda Kook, lorsqu'il voyait les gens énervés dans les embouteillages de l'entrée de Jérusalem, il arrivait à la Yeshiva, c'était à l'entrée de la ville, et il y avait toujours... aujourd'hui, c'est bouché, alors que c'est une route à trois voies, machin. Donc maintenant, ils font des travaux pour l'agrandir encore. C'est bouché, mais ça, t'inquiète pas, ça sera aussi bouché quand ça sera quatre voies et quatre voies, c'est pas grave. Mais à l'époque du Rav Kook, c'était une voie et une voie. Donc t'imagines que c'était déjà bouché bien. Et il disait, mais je ne comprends pas. On pleure à Tisha B'Av lorsqu'on lit dans la Megillah de Eicha, dans la Lamentation de Jérémie, lorsqu'on lit « Darche Tzion Avelot En Ba'ish » Les chemins de Jérusalem sont en deuil, il n'y a personne. Ça, ça nous fait pleurer. Donc, quand on voit les bouchons, on devrait être très content.
On râle, mais on est content.
Voilà, alors il faut râler des simchas. Ça a l'air. Mais c'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire que nous vivons tous les jours Baruch Ata Hashem Bonei Yerushalayim. C'est-à-dire que cette phrase qui était une bracha de rêve pendant 2000 ans, nous la vivons au quotidien. Baruch Ata Hashem Bonei Yerushalayim, on le vit. Et donc, c'est de ça qu'on parle. Jérusalem, c'est donc l'éternité. Mais pour que cette éternité il se réalise, eh bien, il a fallu l'unité. Il a fallu tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à conquérir Jérusalem en 1948 ?
Il y avait des dissensions.
On a trois fois essayé. On a trois fois essayé de prendre la vieille ville.
Il y avait l'Irgun.
Comme on était plus occupé à se détester que de s'organiser... Eh bien, on a eu trois opérations pour libérer la vieille ville, une menée par la Haganah, une menée par le Hetzel, une menée par le Lehi, et donc les trois, elles ont échoué. Si on avait fait une tous ensemble, géostratégiquement parlant, semble-t-il qu'on aurait gagné.
Ça aurait marché.
Mais ça ne marche pas. En 1967, à la veille de la guerre, non seulement il n'y a plus de plein d'armées, il y a Tzahal, il y a une seule armée, mais au-delà de ça, il y a un truc qui est un cas unique. Dans l'histoire juive, on pensait que ça allait peut-être se repasser là, mais non. Il y a un gouvernement d'union nationale. Pas un gouvernement de centre-gauche comme on a aujourd'hui, mais un gouvernement d'union nationale, sans opposition. C'est-à-dire tout le monde est d'accord. pour Jérusalem. Enfin, je dis pour Jérusalem, c'était pas du tout prévu. C'est-à-dire la guerre des six jours, c'est un consensus que bah, les armées égyptiennes et syriennes nous attaquent, bon d'accord, mais Jérusalem n'est pas du tout prévu dans le programme.
Ça a été bloqué Tyrane, surtout.
Mais non, mais on n'est pas censé rentrer en guerre au centre du pays. Mais voilà, au départ, les Jordaniens ne sont pas censés rentrer en guerre. Et ça, c'est très important de le comprendre. On est en contact avec les Jordaniens. Et ils nous ont fait passer des messages comme quoi ils n'ont pas prévu de rentrer en guerre. Et ça nous arrange très bien parce qu'on n'est pas capable de. Enfin, on n'est pas capable, on le saura finalement, mais on ne veut pas. On ne pense pas pouvoir gérer trop de fronts. Donc on a le front au nord, la Syrie, le front au sud, l'Égypte. Et puis quand le 5 juin, au soir, les Jordaniens se mettent sous le contrôle exclusif des Égyptiens et leur donnent l'ordre de prendre le Har HaTzofim, puisque Har HaTzofim, c'était l'enclave juive, là où il y avait l'université hébraïque de Jérusalem, l'enclave juive sur la montagne, et bien lorsque les forces jordaniennes commencent à monter vers Har HaTzofim, il faut faire quelque chose. L'objectif n'est pas de libérer la vieille ville, l'objectif est de prêter main forte à Har HaTzofim. Et on y va. Le problème, c'est que pour arriver à Har HaTzofim, il faut passer le Bet HaSefer LaShotrim. Bet HaSefer LaKtinim VaShotrim, qui était mis en place par les Anglais en 1930, mais Mshaneh, qui sert de grande base forte aux Jordaniens. Et pour arriver au Bet HaSefer LaShotrim, il faut passer par Givat HaTachmoshet. Donc, on dépêche la Khativa 55 avec le Gdoud 66 et on dit, bah, voilà, c'est votre mission de prendre et de dégager le chemin. Pas de problème, on y va. Bon, qu'est-ce qu'on fait avant de se lancer dans une mission? Rappelez-vous vos folles années à l'armée. On fait un briefing de mission. Donc, l'opération va commencer à 2h du matin, 2h30 pour être exact, donc le briefing a lieu à 10h. Ça va, 34 heures avant, c'est bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour préparer un briefing? Préparer une attaque? Non, on a les officiers, machin, mais il nous faut, réunir tout le monde et leur montrer comment ça va se passer. Des plans. Un plan. Et donc, pour avoir un plan, il faut avoir une carte. Pour leur dire, toi, tu vas là, toi, tu vas là, toi, tu vas là. On a une carte. Elle fait à peu près la taille de mon écran d'ordinateur. Et c'est une photo aérienne, pas de Givat HaTachmoshet, de Jérusalem. C'est-à-dire que Givat HaTachmoshet, c'est le bout de mon doigt sur la carte. C'est-à-dire, on ne voit rien. Mais on imagine. On imagine. Maintenant, pour ajouter l'utile à l'agréable, on a des informations. C'est important, savoir contre qui on va se battre. On sait que la Giva, elle n'est pas très protégée. Il n'y aura là-bas qu'une mahlaka jordanienne. Une mahlaka, c'est une trentaine de soldats. Et avec des armes pas trop lourdes. Donc, nous, on a été à l'école de Tzahal, et on sait que quand on veut prendre une place forte, eh bien, l'assaillant doit être toujours supérieur en nombre que le défendeur. Et il faut être à un ratio de 3 pour 1. Donc, s'ils sont une trentaine, nous, on doit être 90-100. Donc, on envoie là-bas une plouga, c'est entre 90 et 100 soldats. Tout va bien. Le problème, c'est qu'on arrive à Givat HaTachmoshet, il est 2h30 du matin, et qu'ils savent très bien qu'on arrive, et que nos informations sont moyennement exactes. Il n'y a pas une mahlaka, il y a deux plougottes jordaniennes à la Giva. Parce que nous, on pensait que tous les hommes étaient à l'école des officiers. Il n'y a personne dans l'école des officiers. Ils sont tous dans la Givat HaTachmoshet. Donc, il y a à peu près, près de 180 personnes. Oui, oui, c'est les Jordaniens. Et donc, on est non seulement... On est en infériorité tactique et en infériorité numérique. Et puis, dès qu'on arrive, on se fait canarder dans tous les sens, ça tire. Voilà. Exactement comme ça. On est pris au dépourvu. Voilà, ce n'était pas prévu. Et d'autant plus qu'on se fait attaquer aussi par l'artillerie lourde, parce qu'ils sont extrêmement bien placés. Et que faire? Alors, on savait qu'il y avait trois tranchées. Trois tranchées. Quoi?
C'était une horreur.
Ah oui, non, c'était une horreur. Mais on savait qu'il y en avait trois, et nous, on avait préparé qu'une mahlaka rentre dans celle de gauche, une dans celle du milieu, et une dans celle de droite. Alors, dès qu'on arrive, bah, on y va alors. On n'a pas vraiment le choix. Le seul problème, c'est que celui qui devait aller dans celle de gauche, il s'est planté. Il a été dans celle du milieu. Résultat des courses, on s'est retrouvé à deux machlakot dans celle du milieu, une sur celle de droite et personne dans celle de gauche. Bon, c'est le grand n'importe quoi. C'est le grand n'importe quoi. Et ça ne va être que grâce à des giborim mamash qu'on va réussir à gagner finalement. On va gagner le combat de Givat HaTachmonet. Il va y avoir 36 morts de notre côté, près de 97 du leur, mais on va gagner. On va mettre en fuite les autres et on va prendre la Giva. Et on va faire un truc unique au Moyen-Orient, qui n'a jamais eu lieu. À la fin des combats, les soldats israéliens trouvent entassés en haut de la Giva 17 corps de combattants jordaniens. Ils ont entassé. Eh bien, les Israéliens, Tzahal, c'est les combattants qui sont là-bas, il n'y a aucun ordre qui est donné, ils vont décider, eux, de leur faire des funérailles. Ils vont les enterrer et ils vont leur faire des funérailles militaires. Parce que ce sont nos ennemis, mais eux aussi, ils se sont battus pour leur pays et machin. Et je ne savais pas, on m'a dit lundi, le mec du musée m'a dit, tous les ans, en secret, du moins pas médiatisé du tout, il y a une délégation de l'armée jordanienne qui vient ici pour rendre hommage à leurs soldats et à nos soldats qui les ont enterrés. Évidemment que personne n'en parle, sinon ce serait trop facile. Non, c'est extraordinaire, c'est un truc de malade. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que finalement, on gagne. Le combat a donc commencé le 6 juin et à la tombée de la nuit du 6 juin, on est arrivé à Arazetim. On est arrivé à Arazetim, Arat Sofim est sorti d'affaires, on est arrivé à Arazetim. Et on est à l'hôtel ambassadeur qui est devenu l'intercontinental, qui est devenu le 7 arches. Et on est là-bas. En face de nous, la vieille ville. Et il va falloir attendre, tout le monde a des sentiments partagés. Qu'est-ce qu'on fait? On y va, on y va pas, on y va, on y va pas. Et il faut attendre la réunion top secrète du lendemain matin, 6h du matin, entre le Ramatkal Yitzhak Rabin, chef de le ministre de la Défense Moshe Dayan, et Ouzinarkis évidemment, et Motagour, qui est le chef des parachutistes sur place. Il attend, parce que c'est lui qui doit mener l'assaut si jamais il y a un assaut. Alors il dit, ce serait bien stratégiquement qu'on y aille quand même. Et Yitzhak Rabin, il dit, on y va alors. Et Moshe Dayan, il dit, je vous ai à l'œil. Ouais, c'était facile celle-là. Et finalement, l'ordre est donné et on y va. Et donc on descend du Arazetim, on passe par la porte des lions et on arrive pour dire le mont du temple est entre nos mains. Et je me permets de dire quand même une réalité historique qu'il faut ramener. Tout le monde pense que ce sont les parachutistes qui ont libéré Jérusalem en passant par la porte des lions. C'est vrai, mais c'est incomplet. Il y avait également l'unité de Jérusalem. Mais pourquoi est-ce que personne n'en parle? Ils sont passés par la porte du Kotel. C'est par la porte que nous, on connaît, à côté du Kotel, Shara Hashkot. Maintenant, pourquoi est-ce que tout le monde les oublie? Eh bien, parce que c'est une histoire de sexy. Il faut être sexy et vendeur quand tu veux vendre l'histoire. Donc, qu'est-ce qui est plus vendeur? De dire que les parachutistes sont passés par la porte des lions ou de parler de Milouim Nikim qui ont du ventre comme moi qui sont passés par la porte des poubelles? Qu'est-ce qui est plus vendeur? Et donc, l'histoire a retenu les parachutistes par la porte des lions. Mais bon, c'est tout le monde ensemble qui ont libéré Jérusalem. Et finalement, on dit Arabaït Béaden. Dans le musée là-bas, ils ont là-bas le drapeau qu'ils ont mis là-bas. Le vrai, l'officiel, la bonne femme de Nkarem. De Beth Hakerem, pas Nkarem. De Beth Hakerem. C'est le vrai, l'officiel, avec la signature des soldats dessus. Ah non, moi j'étais extrêmement impressionné. Oui, dans le musée qui va t'attacher. Incroyable. Et en plus, c'est un musée que tu peux faire de. Pas maintenant, parce qu'en temps de Corona, tu peux le faire. Non, il est ouvert, mais il faut que ce soit organisé. Tu es obligé d'être accompagné par quelqu'un. Mais après, ce musée, il est complet. C'est-à-dire que tu as un audio guide, et en fait, le musée sait où tu es. C'est-à-dire que le musée a des senseurs partout, et donc il te voit. Et là où tu es, il te parle en fonction de ce que tu as, de là où tu es, en fonction de ce que tu as. C'est très. Technologie ou pas? Je te dis, il n'a même pas un an. Mais ils ne l'ont pas encore chivouqué. Ils n'ont pas encore fait de la pub pour le musée. Non, je te dis. Excusez-moi, je te trompe. Tu vois, est-ce que tu vois l'hôtel Leonardo? Non, pas l'entrée de la ville. La triplette d'hôtels qui s'appelle le Grand Court, Leonardo, Olive Tree, American Colony. Voilà, Vishnu Parekhan. Bah, là-bas, quand tu passes les hôtels, machin, à un moment, venez sur la gauche. C'est qui va t'attendre. Voilà.
Je crois que j'ai
Ah oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Bah oui, avec plaisir. Bien sûr. Avec plaisir. Avec plaisir. On fera ça, on mettra ça en place après le corona. Exactement. On se fait une visite complète comme il faut. Des kits sourds. Donc, vous comprenez qu'en fait, c'est de ça qu'on parle. La notion de tout le monde nous a permis d'arriver. D'ailleurs, cette notion de tout le monde, entre parenthèses, là, c'est juste pour vous, c'est en cadeau. On est passé par le monde des oliviers. Comment ça se fait qu'on n'est pas passé ailleurs? Alors, je ne sais pas si c'est humoristique ou pas, mais j'ai entendu le. Alors, est-ce que c'était du Rav Lao ou est-ce que c'était de quelqu'un d'autre? J'ai l'impression, je pense que c'était le Rav Lao qui avait dit ça, mais je ne suis pas sûr, je ne veux pas l'artom. Pourquoi on est passé par le Har HaZetim? Parce que tout simplement, les trois autres côtés, parce que le Har HaZetim, c'est à l'est, au sud, au nord et à l'ouest de Jérusalem, de la vieille ville, il y a des quartiers d'habitation. C'est-à-dire qu'au sud, bah, c'est tout ce qui est Ir David et ensuite de l'autre côté, machin. À l'ouest, c'est la nouvelle ville, machin. Et au nord, pareil, c'est aussi d'autres quartiers, machin. Donc il dit, là où. Non, à l'extérieur même de la ville. Il dit, c'est pas compliqué. Là où il y a des gens qui habitent, il y a de la marloquette.
Il y a des civils.
Il y a de la marloquette. Là où il y a des gens, ça se dispute. Il y a qui habite au Har HaZetim? Les morts. Bon, là-bas, eux, ils sont calmes. Eux, ils sont en paix. Eux, ils sont pas de discussion. Il n'y a pas de marloquette là-bas. N'importe qui peut être enterré là-bas. Ou à Razetim. Si tu as fait.
Il n'y a plus de place.
Alors, il y a toujours de la place au Har HaZetim, moyennant un très, très, très gros chèque. C'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de place au Har HaZetim. Ça y est, ça fait 2000 ans qu'on enterre là-bas, c'est un peu normal qu'à un moment donné, il n'y a plus de place. Mais, enfin, plus que 2000 ans en réalité, depuis le Baït Rishon, on enterre là-bas. Donc, il n'y a plus beaucoup de place. Mais, quand tu fais un très, très gros chèque, tu peux trouver de la place. Ou alors, quoi? Qu'il n'y a pas de place?
Non, il y a de la place, mais il ne faut pas mettre le gros
chèque.
Alors, faut quoi? Alors je vais te dire, je vais te dire. Ceux qui habitent à Jérusalem, non, c'est autre chose. Ceux qui habitent à Jérusalem, ils ont le droit de se faire enterrer à Jérusalem gratuitement. Mais ça sera pas au Har HaZetim, ça sera au Har Hamnuchot, machin. Alors, c'est, je ne connais pas toute l'histoire personnelle, mais c'est possible aussi qu'il y ait des démarches qui avaient déjà été entreprises dans les années 70. À ce moment-là, toute personne qui avait fait des démarches, pas forcément je me suis inscrit, mais des démarches, parce que comme à l'époque, on n'était pas du tout sûr qu'on allait rester là-bas, machin, hein, on venait de gagner la guerre, donc les gens, ils donnaient des maisons dans la vieille ville. Il y a plein de gens qui... Je ne sais pas quelle est l'histoire particulière. De manière générale, aujourd'hui, si tu veux être enterré au Har HaZetim, soit tu as réservé ta place depuis très longtemps, soit tu fais un chèque. Mais peut-être qu'il y a d'autres... Tu sais, tu peux toujours...
Isa, son papa est enterré là-bas.
Oui.
Et sa grand-mère aussi.
Et mais, non, mais ça, c'était avant. Et est-ce qu'ils ont fait des... Est-ce qu'ils ont fait des... Faut demander à Lisa, est-ce qu'ils ont fait des... Est-ce qu'il faut faire des... Mais ils ont fait des démarches. Peut-être qu'ils avaient réservé déjà avant, depuis longtemps. Non? Alors, il faut leur demander.
Peut-être que les gens ne veulent pas, parce qu'on ne peut pas aller non plus à ce cimetière facilement.
C'est ça. Il y a beaucoup
qui rentrent. Tu peux y aller sans problème.
Il y a une porte qui
souffle.
Ouais, ouais, non, je pense pas que ce soit un problème. Moi, je vais souvent.
On peut y arriver, on passe par les Arabes.
Oui, oui.
Ouais.
On s'est embêté par
ouais. Ijoliot. Loyodea. 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 Bon, venez, on parle pas de. De où est-ce qu'on va. Pas à peine. Hein, bien qu'on soit à tendance ashkénaze dans ce cours, il faut penser aux Sfaradines qui sont avec nous. Les Ashkenazim, si on ne parle pas de mort pendant un repas, c'est que ça ne s'est pas bien passé. Quoi, c'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. Je caricaturise. Non, non. Mais Kitzor, finalement, on est revenu à Jérusalem parce qu'on était tous ensemble. Et cette dimension de tous ensemble, en fait, on n'a pas attendu la guerre des six jours. Hein. Jérusalem a été conquise en 67, mais a été conquise à d'autres moments. C'est quand la première fois qu'elle a été conquise, Jérusalem? Par le peuple juif, hein, je parle.
Les Maccabées?
Ah non, il y a eu avant.
Avant, il y a
eu. Et David?
Oui,
il y a eu David. David est celui qui va conquérir Jérusalem. Alors, il conquit la ville, mais il ne conquit pas le Harabait. Le Harabait, il va l'acheter. Il ne veut pas le conquérir, il veut l'acheter. Alors, il y a un monsieur là-bas qui s'appelle Aravna, qui est jébuséen. C'est à lui que ça appartient. Et donc, il veut lui acheter. Alors, le mec, il lui dit, non, mais je te le donne. Non, c'est pas mignon. Enfin, oui, oui, tu as raison. Il a un goren là-bas. Ah, tu dis, dans le Tanakh traduit, il a appelé le vigneron.
Non, mais parce
qu'il y en
a un qui avait une vigne, là.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et je ne sais pas s'il a appelé le vigneron, mais tu as raison. Il avait une vigne, donc une astame. Et donc, il lui dit, je te le donne, je te le donne. Et David, il dit, non, je ne veux pas que tu me le donnes. Je vais l'acheter, comme Avraham et Mechevron, bien sûr. Et donc, il l'achète. L'histoire est racontée dans le Sefer Shmuel. Et on nous dit également quel est le prix. Il a payé 50 shekels. Bon, ce n'est pas les mêmes shekels qu'aujourd'hui, hein, bien sûr, mais 50 shekels. Oui, shekel, ça veut dire... Non, mais le terme... Non, mais Rabotai, c'est pas du tout la même... Oui, tu as raison, mais c'est pas du tout la même chose. Shekel, c'est pas qu'il y avait une monnaie qui s'appelait shekel. Le shekel, c'est ce qu'on est shokel, ce qu'on pèse. C'était le poids que ça représentait en argent. Ok ? C'est pour ça que ça s'appelle shekel. Maintenant, donc 50 shekels. Bon, pourquoi pas ? Le seul problème, c'est que cette même histoire est re-racontée dans Divrei Hayamim, dans le dernier livre du Tanakh. Pourquoi pas ? Seulement là-bas, on nous dit aussi que David a acheté à Aravna, mais on dit que là-bas, il l'a payé 600 shekels. Pas 50, mais 600. Donc je me dis, il y a peut-être une inflation entre Shmuel et Divrei Hayamim. Ou alors, il y a autre chose.
Le shekel a augmenté.
Alors, c'est ça, tu dis ? Non, je pense qu'il y a eu autre chose. Alors, aidez-moi. Les mathématiciens ici. C'est quoi la relation entre 50 et 600?
12 fois.
12. Ah, c'est bon, t'as compris?
12.
Nous dit la Gemara dans Chagiga que David a donné 50 shekels au nom de la tribu d'Yehuda. Et que chaque tribu a donné 50 shekels qui ont amené à 600 shekels. En fait...
Ça fait cher, hein, du coup.
Ça fait cher, du coup. Hein. Mais ça veut surtout dire que si tu veux arriver à cette étape-là, il faut tout le monde. Ça, David, il aurait pu payer de sa poche. Mais il veut que ça appartienne à tout le monde.
C'est ma petite fille.
Vous n'avez pas fait encore une boîte de conserve?
La balade à Baïd.
Ouais, ça marche. Et quoi, un pot de yaourt truc pour faire le téléphone? Nounou. Des kits sourds, donc il faut tout le monde. Et c'est ça qu'on apprend de Jérusalem. C'est-à-dire que Jérusalem, on est venu, on l'a conquis en 1967. Et une fois qu'on a conquis Jérusalem, qu'est-ce qu'on fait? Une fois que David va conquérir Jérusalem, qu'est-ce qu'il fait? Il va acheter Harabait. Il rassemble tout le monde pour acheter, pour pouvoir arriver à l'étape d'après, qui s'appelle Beit HaMikdash. Si on a dit que Ve'anetzach Zeh Yerushalayim, c'est d'Agamour. Mais c'est quoi l'étape d'après? Bien, l'étape d'après, c'est Beit HaMikdash. Beit HaMikdash. Et comment on fait pour arriver à l'étape d'après? Eh bien, pour arriver à l'étape d'après, il faut... que de la même façon qu'on a rêvé Jérusalem, qui nous a permis de revenir à Jérusalem, ben il faut qu'on se recommence à rêver Beit HaMikdash. Seulement le problème, c'est que pour pouvoir rêver de quelque chose, il faut un minimum le connaître. En 1967, après qu'on ait dit « Harabait Beyadenu », ça y est, on a conquis l'endroit, Ben, un des officiers va dire à un jeune soldat de 20 ans, « Srulik, ata po em afrablozaz. » Il y a une centaine d'Arabes qui sont maintenant prisonniers, qui sont assis, et Srulik, petit soldat de 20 ans, ben, il est là, il les garde. Voilà, personne ne bouge. Bon, il va rester comme ça quelques heures. Ça a l'air. Mais pendant ces quelques heures, Srulik, il commence à réfléchir. Parce qu'on lui a dit, tu bouges pas, tu es là, et il ne bouge pas. Mais il est où ? Il est devant la porte du Dôme Doré. À l'entrée du Dôme Doré. Que je n'appelle pas la mosquée d'Omar, parce que ce n'est pas une mosquée. Le Dôme Doré. Non, ce n'est pas une mosquée. La mosquée, c'est Al-Aqsa, c'est à côté. Le Dôme Doré, c'est le Dôme Doré. Et Kitsour, il est là-bas. Et il commence à se dire, c'est incroyable. Je suis le premier juif à me tenir ici depuis le dernier Kohen Gadol. C'est-à-dire qu'on est à l'endroit du Kodesh HaKodeshim. C'est-à-dire le dernier juif qui était là, c'est le Kohen Gadol, il y a 2000 ans, avant la destruction du Beit HaMikdash. Je suis le premier juif à être là. Et à ce moment-là, puisqu'il a le temps, il commence à se dire, ah, mais donc je suis au Beit HaMikdash. Mais qu'est-ce que je sais du Beit HaMikdash ? C'est un jeune juif religieux, ce petit Srulik. Il a étudié des trucs à la yeshiva, machin, il connaît deux, trois choses. Et il essaye de se passer en revue ce qu'il connaît du Beit HaMikdash et il se dit que finalement, il connaît pas grand-chose. De Shabbat, il connaît plein de choses. De Kashrout, il connaît plein de choses. Beit HaMikdash, il connaît pas grand-chose. Et donc, il prend une décision. Il dit, ben, moi, après la guerre, après dès que j'aurai terminé l'armée, eh bien, je vais faire en sorte qu'Am Israël, ils connaissent le Beit HaMikdash. Pour qu'on puisse rêver Beit HaMikdash. Et donc, le petit Srulik, une fois qu'il a terminé l'armée, il retourne à la yeshiva et il va devenir un avrer, un étudiant à la yeshiva, qu'on va appeler Israël. Très vite, il devient rabbin, il passe ses examens, machin, il devient Reb Israël. Et finalement, il va devenir le Rav Israël Ariel qui va créer le Machon HaMikdash, qui existe encore aujourd'hui à Jérusalem, et qui se visite également, qui est l'endroit où, bah, jusqu'à aujourd'hui, ils ont reconstruit... Pas que de maquette. Ils ont reconstruit tous les ustensiles du Beit HaMikdash. Qui sont prêts à l'emploi. Qui sont prêts à l'emploi, en bataille. Alors, en fait, il faisait ça. Je ne sais pas s'il fait ça maintenant encore aujourd'hui. Arrêtez. Voilà. Mais le responsable du Machon, c'est le Rav Israël Ariel. C'est lui qui l'a créé, c'est lui qui a tout mis en place. Et donc, c'est de cela qu'on parle. Il est temps maintenant qu'on passe à l'étape supérieure. Nous avons fait notre Jérusalem. Il est peut-être temps de commencer à repenser l'étape d'après, à savoir le Beit HaMikdash, pour donner un étage supérieur à notre retour à Jérusalem. L'avenir le dira. Est-ce que ça prendra 2000 ans ou est-ce que ça prendra un peu moins de temps ? Je pense que ça prendra moins de temps. Mais ça dépend de nous. Hein. Ça dépend de nous. Chag Sameach. Il a donné au WAQF l'administration. C'est-à-dire